سايبر تول.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامجكم سايبر تول. كما تعودتم معنا يكون نهار ثلاث من ثلاثة ونص حتى للأربعة متاع العشية، فقرات القارة متاعنا نحكيه على أمن المعلومات، الأمن السيبرياني وغيره، نحكيه على الهجمات اللي صارت في العالم ونقدمه زادة جديد في عالم التكنولوجيا هذه وأمن المعلومات. اليوم الثلاث 5 ديسمبر 2023، الأكيد وقت نحكيه على سايبر سيكوريتي نحكيه على حماية التليفونات متاعنا، حماية ليزورديناتور، أي إشكالية تنجم تصير، فيروس أتاك وغيره مهم جدا زادة، بما أنه البرنامج متاعنا هو الأول والوحيد اللي يهتم بالسلامة المعلوماتية والسيبريانية، مهم جدا نواكبوا جديد في العالم التطورات متاع التكنولوجيا هذه وين وصلت في المسائل هذه زادة. نحكيه حتى الشركات اليوم فاش قاعدين يعملوا، سواء الشركات في تونس أو الشركات خارج تونس، ومهم جدا زادة نحكيه على التجارب في العالم. حلقة اليوم باش يكون مع ضيفنا باللغة الفرنسية، وفي كل مرة لخصوا لكم ونترجموا لكم شنو باش يتقال في حلقة اليوم. نرحب كيف العادة بخبير البرنامج محمد الحبيب قحبيش، سيو اي تي سي ونكس جي ار سي. مرحبا سي الحبيب.
مرحبا بك أسامة،
وليك الكلمة توا مع ضيفنا.
مرحبا بالمستمعين الكل. فوالا، tout d'abord on souhaite la bienvenue pour monsieur Benoît Grunewald qui est un expert cybersécurité AZ. Bonjour monsieur Benoît.
Bonjour à tous.
Bienvenue parmi nous.
Merci.
Voilà. Donc comme l'a énoncé notre cher ami Oussama, on va aborder une émission spéciale AZ aujourd'hui. Là, on va aborder plusieurs sujets sur la cybersécurité d'une façon générale. Sa définition, les risques majeurs, les risques émergents même, et qu'on va aussi continuer avec une deuxième épisode qui sera diffusé le 12 décembre, qui traitera peut-être les défis futurs de la cybersécurité et la vision de AZ sur les défis de la cybersécurité. Voilà, si on peut commencer par présenter AZ et sa présence en Tunisie.
Alors, merci de m'accueillir. EZ, c'est maintenant plus de 32 années d'existence. C'est une entreprise qui a été créée au cœur de l'Europe et qui est souvent très connue pour l'antivirus Note 32. C'est notre premier produit. Et il se trouve que depuis la création de cet antivirus, on a énormément évolué. Aujourd'hui, on a 13 laboratoires dans le monde entier qui vont analyser les menaces. On a 2500 personnes qui vont faire en sorte que les produits fonctionnent. Mais ça, c'est par rapport au début, ça a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait forcément déjà du cloud. Hein, donc il y a 32 ans, on avait du cloud parce que les mises à jour des antivirus, ça venait de notre cloud. Et puis au fur et à mesure, sont venus faire grandir l'entreprise avec différentes fonctions, l'intelligence artificielle, la sécurité en elle-même de notre cloud, la mise à disposition de cloud pour des clients et l'ajout de briques supplémentaires qui vont permettre aux entreprises de se protéger plus largement que ce que l'on appelait avant l'antivirus. Et là,
Et je confirme parce que j'étais un des premiers utilisateurs de Note 32, donc je confirme. Maintenant, pour AZ, quelle serait la définition de la cybersécurité pour AZ et quel est son rôle? Bon, je dirais un rôle crucial, certes, mais quel est son rôle dans une organisation en 2023?
Le rôle d'AZ est donc toujours un rôle de protection de ce que l'on appelle l'EPP, l'endpoint. Et bien entendu beaucoup plus loin, parce que quand on va protéger Microsoft 365, Google Workspace, des SharePoint, des passerelles, on va beaucoup plus loin et c'est ce que l'on appelle les points d'entrée et on va nous apporter une défense active et en profondeur de ces différents points d'entrée. Ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est ce que l'on appelle la Cyber Threat Intelligence, la CTI. Et cette connaissance de la menace que l'on a grâce à notre vision mondiale nous permet d'apporter à des entreprises qui sont matures, plus matures que celles qui ont juste besoin d'un point, une vision pour anticiper et répondre à la menace. Et là, je pense... Je pense à des événements mondiaux comme, comme des Jeux Olympiques, de Coupe du Monde de rugby, ou même quelque chose qui est beaucoup plus large, comme des CERT qui vont agir soit sur un niveau local, régional ou continental.
Exactement, exactement. Moi, en tout cas, je valide ce que vous venez de dire, parce que lorsqu'on parle de CTI, étant un, je dirais pas un expert, mais quelqu'un qui a travaillé énormément sur la norme ISO 27001 avec son évolution vers la version 2022, parmi les mesures qui ont été ajoutées, c'est l'obligation de montrer aux auditeurs qu'on fait une activité de threat intelligence. Maintenant, avec le passage obligatoire de plusieurs sociétés de la version 2013 vers la version 2022, il y aura forcément, on en a parlé déjà, mais il y aura forcément besoin de explorer ou de consommer, je dirais de consommer ce service-là. DZ, c'est un service que, comme vous l'avez dit, il est basé sur 13 laboratoires. Je pense que vous faites un travail qui est énorme par rapport à la cyber threat intelligence. Maintenant, pour la cybersécurité, d'une façon générale, donc EZ, elle se concentre principalement, vous avez parlé des endpoints, certes, mais je pense que le point le plus crucial, c'est la data, c'est la donnée des utilisateurs. Lorsque vous avez parlé de SharePoint, lorsque vous avez parlé de Microsoft 365, de Amazon, de Google Workplace, excusez-moi, je pense que vous avez un focus énorme sur la data d'une part, et d'autre part, de l'évolution réglementaire en Europe, dans le monde, et même si en Tunisie, vous savez qu'en Tunisie, on était un des précurseurs pour la protection des données à caractère personnel. On a une loi qui a été élue en 2004. Mais je pense que l'évolution réglementaire en Europe, elle a incité EZ pour ses 32 années ou 30 années d'existence à évoluer ses services.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de rencontrer l'INPDP ici en Tunisie. On a partagé une vision commune sur la protection de la donnée. Et c'est vrai aussi que quand je parle de Google Workspace et ou de protection du endpoint, c'est bien pour éviter à la fois la fuite de données et l'arrêt des systèmes. Donc, ces deux catégories d'exigences que l'on va classer peut-être sous cyber-résilience, c'est effectivement notre objectif, de permettre à ce que les entreprises n'aient pas de fuite de données. Et aussi, ça c'est moins notre sujet, mais je pense que c'est quand même intéressant pour les entreprises, c'est de savoir qui accède à la donnée et comment.
La traçabilité.
La gestion des droits des accès. Alors, ce n'est pas tellement mon domaine, mais c'est un sujet que l'on aborde fréquemment.
C'est un souci, que ce soit de petites, moyennes ou grandes entreprises, telles que les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés pétrolières, les services financiers, la traçabilité de l'accès. Et surtout pour les entreprises qui sont implémentées en Tunisie, mais qui collaborent ou qui travaillent avec des sociétés ou des organisations européennes, le RGPD. Certes, ça fait fatiguer beaucoup de DSI. Là, j'en connais des DSI qui sont fatigués par rapport à ça. Mais je pense que EZ, elle peut apporter des leviers ou des contrôles ou des mesures pour faciliter et automatiser la protection de leurs données.
Oui. La première mesure à laquelle je pense, c'est le chiffrement du poste. C'est-à-dire qu'on a tous un poste de travail. Alors parfois, certaines entreprises ont fait le choix de minimiser ce qu'il y a sur le poste de travail pour le déporter dans des serveurs. Mais pour autant, le poste de travail, il y a un moment où, quand on travaille sur la donnée, on la déchiffre. Et donc, elle est sur le poste de travail. Donc, il faut bien le protéger. Et nous, on propose notamment le full disk encryption, ce qui veut dire qu'à partir de la console centralisée, on va pouvoir... Allez, c'est vraiment sans exagérer, hein, cliquer sur un bouton et avoir l'ensemble de son parc qui va être chiffré. C'est transparent pour l'utilisateur et ça apporte en termes de RGPD une solution.
Une conformité
à l'article 32 et 34, aux articles
Exactement.
32 et 34.
Exactement.
Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, sur la traçabilité, on est quand même à un très haut niveau dans le système. Donc on a une verbosité qui est très forte et on a beaucoup de logs qui peuvent nous remonter, que l'on peut stocker soit pour une action forensique a posteriori, mais que l'on peut aussi utiliser en temps réel. Et ça c'est l'EDR, ça fait partie vraiment des technologies qui apportent une vision supplémentaire pour répondre à la fois aux menaces, mais également aux exigences réglementaires.
Exactement. Vous avez parlé de EDR là, j'en connais énormément d'auditeurs qui veulent entendre beaucoup sur les EDR, mais plutôt, je pencherai sur, pour EZ, quelle serait son évaluation ou son analyse sur les risques actuelles et les menaces actuelles en termes de cybersécurité. Je dirais, vous allez peut-être en parler davantage, les ransomware 2.0, les ransomware as a services. Maintenant, c'est un service qu'on peut acheter, s'acheter.
Complètement.
Les menaces internes, la gestion de la vulnérabilité, la gestion de l'obsolescence des parcs, tout ça, je pense que c'est des menaces que EZ a pris en considération pour développer ses produits, certes, mais pour protéger ses clients et pour protéger ses partenaires.
Oui, complètement. Et alors, les partenaires, c'est un point très important parce que on croit énormément aux partenaires, on croit énormément au fait que la présence locale est primordiale pour accompagner un client. C'est-à-dire qu'on pourrait vendre des licences, mais quand on fait de la cybersécurité, vendre des licences, ça ne marche pas, parce qu'il faut connaître le client, il faut implémenter, il faut déployer.
Il faut le conseiller,
il faut ajuster en fonction de l'usage, et encore plus avec l'EDR. Donc le partenaire, il est là pour nous primordial, pour faire l'interface entre nous et le client, ce qui ne veut pas dire que le client ne nous parle pas, ce qui veut dire que le partenaire apporte une valeur ajoutée vis-à-vis du client.
Exactement. Donc la montée en compétence de vos partenaires, c'est un des leviers de croissance de EZ.
C'est obligatoire parce qu'il est notre représentant, il est obligé de connaître nos solutions aussi bien que nous, et comme il connaît le client, mais il sait aussi quelle solution va lui correspondre parce qu'il connaît sa maturité cyber. Et au final, le client, par exemple s'il fait un appel d'offres ou autre chose, il va gagner du temps parce que le partenaire, lui, va lui apporter la bonne solution.
Donc, on va essayer de traduire ce qui est dit. Donc, on va parler de la société إزاد اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا في 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 سواء على المستوى الأوروبي ولا المستوى العالمي. هنا نحكيه على أكثر من 30 سنة معناتها موجودة في أوروبا، 13 لابوراتوار في العالم، نحكيه على 1500 مختص في الميدان هذا. نحكيه زاد على استعمال الذكاء الاصطناعي لأساليب الحماية، نحكيه زاد على أنه عندها دور كبير في أنه تحمي المؤسسات الكبرى أو الصغرى في عديد الاختصاصات، وكانت الأمثلة كبيرة سواء حتى المشاركة سواء حتى في التظاهرات لحماية زادة التظاهرات هذه من أي حاجة تنجم تهددها سواء في الأمن السيبرياني. نحكيه على الهجمات اللي تنجم تصير مع الألعاب هذه والتظاهرات هذه، وزادة لهنا في النقطة الأخيرة هي الخدمات اللي تقدمها الشركة هذه بالنسبة للعملاء امتاحها وإلا الشركاء امتاحها في المجال هذا اللي يخلي انه اليوم كي نحكيه على سايبر سيكوريتي نحكيه على حاجة مهمة برشا اصبحت واقع يمكن التعامل متاعها قاعد يتطور من عام لعام.
صحيح أسامة، ويمكن زادة باش نرجعوا مع ضيفنا على موضوع اللي هو مهم برشا اللي هو شنو تقدموا ازات يمكن بصفة خاصة للحرفاء امتاحة وللشركة امتاحة. دونك مسيو بنوا on a abordé le sujet de ce que peut apporter ازات pour ses clients, pour ses partenaires. Je pense que ازات elle joue un rôle prépondérant dans le conseil de ses clients parce que on est devant un marché. On le dit, c'est un marché consommateur. Ça veut dire que chaque responsable d'une entreprise, en fait, c'est primordial pour lui de protéger ses données. Moi, je dirais que pendant une étude qui a été faite sur l'évolution du risque par la Banque mondiale, le seul risque qui n'a pas changé de ranking, de level pour 2023 et pour une estimation pour 2025, c'est le risque cybernétique.
Oui. Et il est de plus en plus mis en avant. Je pense au World Economic Forum aussi.
Exactement, c'est ça.
Qui met ce risque-là en tête.
Effectivement, c'est parmi les top 3.
Exactement.
C'est parmi les top 3, exactement.
Pourquoi ? Parce que si on a une fuite de données, on a effectivement des conséquences réglementaires. On va avoir des conséquences également business, parce que les clients
peuvent
nous quitter parce qu'on ne prend pas soin de leurs données. Et puis ensuite, on a pour moi un impératif business qui est que aujourd'hui, vous évoquiez les ransomware. Aujourd'hui, le ransomware, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est la finalité de l'attaque qui va mettre l'entreprise à l'arrêt. Donc, ça veut dire chômage technique, hein, plus de travail. Et avant ça, il se passe énormément de choses que les cybercriminels doivent réussir. Alors, c'est pour eux un challenge, mais malheureusement, ils y arrivent. Réussir pour rentrer dans l'entreprise, s'installer, persister, sortir les données et ensuite les chiffrer et faire que l'entreprise ne fonctionne.
Exactement. Moi, j'ai changé même pendant d'autres épisodes. C'est que je disais que parmi les personnes les plus patientes que j'ai vues dans ma vie, c'est les hackers. C'est des personnes qui sont patientes. Ils ont une stratégie qui est très, très carrée, très simple. Il a un but, c'est d'arrêter le système. Vous volez vos données et vous demandez une rançon. Si vous ne payez pas, bah voilà, on va mettre en vente vos données.
Oui, oui, oui. Alors, et donc on a beaucoup d'ingéniosité parce que vous le disiez, ransomware as a service, et également extorsion. Donc on vous demande une rançon pour vos données, double extorsion. On vous demande une rançon pour ne pas diffuser vos données et ne pas alerter. D'ailleurs, on l'a vu, une entreprise américaine. En fait, c'est les pirates qui ont entre guillemets déposé plainte auprès de l'autorité en disant ouais. Nous avons leurs données, donc les données ont fuité. Vous devez leur mettre une amende.
Exactement.
Et ensuite, vous avez la triple extorsion, notamment dans tout ce qui est médical, où vous allez, enfin, le cybercriminel va prendre les données, faire une extorsion sur l'entreprise et ensuite dire attention, vous êtes client de cette entreprise-là. Si vous ne payez pas, eh bien, vos données médicales peuvent se retrouver elles aussi dans la nature.
Exactement. Mais c'est, moi, je dirais que c'est des. On parle de cyberterrorisme maintenant. C'est des entités qui sont organisées, c'est des sociétés. C'est des sociétés avec un organigramme qui est très clair. Vous avez un dirigeant, vous avez un directeur comptable, vous avez un directeur ou un responsable pour les opérations, vous avez un responsable
avez
même pour les logistiques, même pour la logistique.
Des supports techniques pour aider les gens à payer en Bitcoin.
Et exactement. Moi, je me rappelle avec en fait CyberTalk, notre première émission, elle tournait autour d'une attaque qui s'est déroulée sur un des hôpitaux sur Paris, et on a essayé, mais vraiment, de mettre en évidence l'importance de la cybersécurité dans la préservation de la vie des personnes. Mm-hmm. Parce que lorsque vous avez une clinique Bien ou sûr. Un hôpital qui est à l'arrêt, ce n'est pas comme une industrie. Ouais, là où d'accord. on a des vies. Bien on n'a pas de l'argent. C'est des vies des gens qui, lorsque vous allez faire une opération, vous ne savez pas est-ce que c'est un homme ou une femme. Bah parce que tout est basé, c'est un DMI. Vous avez un dossier médical informatisé. Donc, si le système il est à l'arrêt, c'est que...
Vous n'êtes pas en mesure de faire l'opération. C'est vital, on est d'accord.
Et le temps, c'est de l'argent, mais le temps aussi, c'est la vie des gens.
Complètement. Et en parlant d'hôpital, moi, j'ai toujours en tête, parce qu'on parle toujours de ce qui ne va pas, entre guillemets, on prend comme exemple dans les rétextes, souvent ce qui ne fonctionne pas. Et moi, j'ai quand même un bon exemple, c'est le centre hospitalier de Brest, qui a vu son système pénétrer. C'était un vendredi soir à 22h. Ça arrive souvent à cette heure-là, parce que les équipes partent en repos, partent en week-end. Et donc, il y a eu des premiers signaux d'attaque qui ont été relevés. Le RSSI a été rappelé et de là, ils ont commencé des investigations et ils ont réussi à contenir l'attaque parce qu'il y avait les bons réflexes. Il y avait un EDR notamment, il y avait des éléments qui montraient qu'il y avait une activité dans le réseau, une activité suspecte bien entendu. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réussi à contenir cette attaque. Malgré tout, ils sont restés plusieurs semaines quasiment à l'arrêt. Parce que à partir du moment où, en tout cas en mode dégradé, pas à l'arrêt complet, mais en mode dégradé, à partir du moment où vous avez une intrusion dans le système d'information, vous devez savoir comment, pourquoi, quelle est l'ampleur, est-ce que ça touche les sauvgardes? Parce que si vous restaurez des sauvgardes et que en fait,
vous, touché, c'est
vous avez la faille qui est encore dedans, vous repermettrez aux pirates de revenir. Donc c'est là où l'importance de la connaissance de soi-même et, et des logs et de l'activité suspecte sur son système d'information est primordiale.
Avant de passer la parole à Oussama, moi je dis que toujours, on ne peut jamais protéger un actif qu'on ignore son existence. Donc voilà, c'est un des principes de la cybersécurité.
هو لهنا زاد خلنا نلخصوا الكلام اللي كان يلقى محمد الحبيب قحبيش اللي حكينا على الهجمات اللي صارت في العالم وكما قلت انت دونك واحده من الهجمات اللي صارت على واحده من المستشفيات في فرنسا كنا حكينا عليها في واحده من الحلقات ونفسروا كيفاش تم سرقه المعلومات او كيفاش قرصنت معناتها المعلومات الشخصيه اللي موجوده معناتها في المعطيات الشخصيه للمرضى والصحيه زاد للمرضى في المستشفى هذه لهنا زاد حكينا أضيفنا على توقيت الهجمات اللي توقيت فيها فيه زادة رمزية كبيرة برشا حكاية زادة على واحدة من الهجمات اللي صارت نهار الجمعة 10 متاع الليل وقت اللي براتيك ما تلقى حتى حد يخدم ثم ويكاند دونك تصير لهنا الهجمات هذه والأسئلة المهمة زادة في الوقت اللي نحكيوها سايبر سيكوريتي باش المستمعين معنا متاعنا يزيدوا يفهموا اللي راو علاش صارت الهجمة كيفاش صارت والتوقيت متاعها وكيفاش باش تتعامل معها بعد ما تصير الهجمة هذه
الريفلكس
معناتها كيفاش انك تتصرف في الهجمات هذه دونك هذيا في البارتي الاولانيه مع ضيفنا سينو توت سويت نمشيو سايبر ادفايس سايبر ادفايس عندك الكلمه محمد الحبيب شنو باش نحكيو تو في سايبر ادفايس
voilà maintenant on va céder la parole à monsieur Benoît en fait c'est un cyber advice by EZ donc on va essayer de vous entendre et de nous présenter une des conseils ou des remarques ou des recommandations et quel serait l'apport de EZ dans cette problématique.
Je vais rebondir sur ce que vous disiez qui pour moi effectivement est fondamental et on peut parler des bases, hein, c'est connaître ses actifs. Aujourd'hui, qu'elle soit cloud ou pas cloud, on propose une console qui va au-delà de la gestion de la sécurité traditionnelle que nous, on propose, antivirus, protection du endpoint, etc. On va notamment, parce qu'on installe un agent qui est très léger, on va pouvoir répertorier l'intégralité de son système d'information, faire remonter les applications et le matériel qui est dans son parc, et grâce à ça, on va pouvoir aussi les classer. Ce qui veut dire que si vous avez des postes informatiques, eh bien, on va savoir si il y a encore de la place sur le disque dur, on va savoir si la carte vidéo est récente, si le processeur est récent, etc. Et en fait, grâce à tout ça, on va faire la première chose, c'est la gestion des actifs. On va aussi pouvoir utiliser des filtres qui sont très puissants et qui vont pouvoir dire, je vois le système d'exploitation, par exemple, je prends tout ce qui est Win, étoile, et je le mets dans un groupe Windows. Je prends tout ce qui est Linux, étoile, et je le mets, etc. On peut aussi dire, par exemple, les cartes réseau, tout ce qui est VMnet, eh ben, je le mets dans le groupe des machines virtuelles. Et à partir de là, avec ces groupes dynamiques qui sont faits dynamiquement, eh bien, on va pouvoir venir appliquer, par exemple, des correctifs, installer des logiciels, supprimer
des politiques.
Exactement. Un nombre incroyable de politiques qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont parfois rébarbatives ou qui, pour les grandes entreprises, sont faites avec des logiciels payants, coûteux, complexes. Et quand on est une TPE-PME, finalement, et je reviens à l'utilité du prestataire, Le prestataire, lui, il va venir, il va installer la console ou il va vous activer un accès cloud. Et à partir de là, il va venir régler en fonction de vos usages ces différents groupes dynamiques et l'application des politiques. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que ce prestataire, si vous devez en choisir un, ce n'est pas forcément celui qui fait l'achat et la revente. C'est celui qui va vous accompagner, celui qui va vous connaître et qui va certes vous faire payer du service, mais ce service-là, c'est celui qui va faire que les données ne vont pas sortir et que votre entreprise va pas s'arrêter.
C'est un retour d'investissement sur une perte qui est inestimable pour moi. Vous avez parlé aussi de création de groupes. Même on a déjà abordé un point qui est l'isolation des systèmes obsolètes, par exemple. Là, on le dit clairement, il y a plusieurs structures conséquentes, mais qui utilisent encore des systèmes obsolètes. On parlait du Windows 2003, on parlait du Windows 2008, on parlait du SQL 2003. Là, je pense que EZ, elle peut offrir ce qu'on appelle l'isolation de ces systèmes-là. Je comprends qu'il y a des problématiques d'utilisation parce que c'est des systèmes qui sont obsolètes ou des applications obsolètes ou legacy systems, ce
qu'on appelle les legacy systems. Exactement, qu'on ne peut pas forcément mettre à jour facilement ou si ça coûterait très cher.
Exactement. Donc, je pense que EZ, elle offre la possibilité d'isoler ce qu'on appelle les systèmes, disons, obsolètes et vulnérables.
Oui, oui, tout à fait. Parce que, et pourquoi ils sont vulnérables? Ils sont vulnérables parce qu'il y a des vulnérabilités inhérentes au système et aussi les systèmes ne nous permettent pas forcément de déployer les nouvelles technologies. Par exemple, un anti-rootkit sur un système obsolète, on ne peut pas le mettre parce que le système lui-même ne nous permet pas d'aller chercher les informations qui sont nécessaires pour détecter les
rootkits. Il ne génère pas de la data que l'anti-rootkit il va consommer.
Par exemple. Donc, le système est obsolète et nous, on veut essayer de les protéger, mais il y a juste un moment où c'est pas possible.
Oui, exactement.
دونك لهنا محمد الحبيب قحبيش اللي تقال انه ازاد دونك تعمل على الحمايه نتاع الانظمه نتاع الشركات فما امور تقنيه عديده يظل محمد الحبيب قحبيش فما مقاييس في التعامل مع الانظمه هذه وهذا اللي كنا نحكيو فيه في كل مره معناتها في حلقتنا
هو اسامه اللي يحكي عليه ضيفنا مسيو بنوا اللي هو اول حاجه اللي عمليه جرد les équipements اللي عندنا يعني l'inventaire اللي هو الاول حاجه سي لا ديكوفيرت نستكشف شنو اللي عندنا باش نجمو نحميوه كيما قلنا راهو ما نجموش نحميو نظام اللي نجهلو الوجود نتاعو اول حاجه ازات باش تعاون في لا ديكوفيرت دو سيستم دانفورماسيون pour pouvoir protéger ومن بعد زاد كيف كيف حكي زاد ضيفنا على برامج اكتشاف الثغرات على احكي على برامج ليزولاسيون نتاع لي سيستيم اللي هما قدم وليك الكلمه سي وسام
ميرسي بوكو مسيو بنوا ميرسي بوكو يعطيك الصحه محمد عبد الكحبيش احنا هذا الجزء الاولاني ان شاء الله الجمعه الجايه نهار الثلاثاء الجاي باش يكون الجزء الثاني في حلقتنا شكرا لكم على الاستماع في لمنس كلها Cyber Talk.